dernier refuge.
Bon, on reprend notre chantier avec deux communications, dont la première est celle de Marie-Claire Willems, qui est doctorante en fin de thèse au Sophia Paul à Paris-Ouest, et qui va nous parler des usages du terme musulman autour du processus d'ethnicisation, racialisation et confessionnalisation en tension.
C'est bon, voilà, c'est bon. J'y vais, Vincent ? J'y vais ? Ok. Donc... ma présentation s'intitule « Socio-sémantique historique des usages du terme musulman entre processus d'ethnicisation, de racialisation et de confessionnalisation ». Depuis septembre 2010, j'ai commencé une thèse à Paris 10 sur les usages du terme musulman en français et les processus de catégorisation en tant que musulman à partir de la définition de soi en tant que musulman, l'autocatégorisation, et la définition d'autrui, l'hétérocatégorisation. Cette thèse présente deux particularités. La première particularité, mon premier grand axe de travail, c'est de construire une recherche de socio-sémantique historique, qui est un terme que je reprends à mon directeur de recherche, Stéphane Dufoy. C'est-à-dire qu'il s'agit d'utiliser des données de l'histoire, des données sémantiques d'analyse du langage et des discours, et de la sociologie. Et de m'intéresser principalement à un mot, qui est donc le mot musulman que j'ai cherché à historiciser. Il ne s'agit pas de retracer l'histoire de ce mot, d'en faire une étymologie, car l'intérêt principal est d'étudier les cadres socio-historiques et de montrer comment le cadre socio-historique singulier influe sur la signification qui va être donnée au mot. Et j'étudie cette signification sur un temps long et sur un temps présent avec les outils du sociologue. Donc mon deuxième grand axe de travail est contemporain. À partir des données de socio-sémantique historique que j'ai réunies, je suis allée sur le terrain avec les outils du sociologue, où j'ai fait 57 entretiens retranscrits, 56 questionnaires à visée qualitative, de l'observation participante auprès des personnes qui se déclarent musulmanes pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire pour eux être musulmane. Et à chaque fois, que ce soit dans le cadre de la démarche de socio-sémantique historique ou dans le cadre de la démarche contemporaine, j'ai essayé d'interroger la catégorie musulman, comment elle se construit et comment elle se construit toujours en tension entre des processus d'ethnicisation, de racialisation et de confessionnalisation. Ce que je tente de faire, c'est à chaque usage, à chaque activation du référent, à chaque mobilisation, j'essaie de déconstruire la signification qui est mise en science et d'observer comment les frontières se construisent et comment elles créent la représentation. Deux grands axes. Bah, du coup, j'avais fait un petit quiz sur ce que c'était pour moi l'ethnicisation, la racialisation et la confessionnalisation, mais je pense qu'on en parlera dans le débat si c'est nécessaire ensuite. Donc je passe ça, parce qu'autrement je vais déborder des 20 minutes. Donc les deux grands axes que je vous ai présentés plus haut sont essentiels. Il y a toujours une démarche d'historicisation. Et ça, je passe aussi. Voilà. Donc, il me semble, après ces 6 années de recherche de doctorat, qu'il n'existe pas, par rapport aux usages du terme musulman, d'exclusive confessionnalisation ou racialisation ou ethnicisation, mais qu'à chaque fois, ça se construit en tension. Et que l'exclusive confessionnalisation, mais ça, j'y arriverai à la fin, est quelque chose qui me semble être plutôt contemporain et qu'on retrouve aujourd'hui dans les discours sur soi en tant que musulman. Donc, plusieurs constats de départ m'ont permis de penser les processus. Et le premier constat de départ est tout d'abord les glissements sémantiques qui existent souvent dans les discours et principalement exacerbés dans le champ politico-médiatique entre les termes d'arabe, de maghrébin et de musulman. Le premier champ où c'est très exacerbé est le champ des statistiques, puisqu'il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre le nombre de musulmans qu'il y a en France ou le pourcentage de musulmans qu'il y a en France, qui est souvent de 5 à 6 millions. Et la première question qu'on peut se poser, c'est comment est construit ce nombre et qui pose la question de ce qu'est être musulman. Le deuxième grand champ où les glissements sémantiques s'exacerbent est le champ politico-médiatique. Je cite un exemple un peu d'actualité. Lors des assassinats de Mohamed Merah, Nicolas Sarkozy déclare en parlant du jeune assassiné Abel Chenouf, qui est donc de nationalité française, d'ascendance algérienne et de confession chrétienne revendiquée, qu'il est musulman d'apparence, bien que catholique. Et en 2014, le président François Hollande déclare au dîner du CRIF les 4 juifs, 3 musulmans, 7 français morts, assassinés par Mohamed Merah, en comptabilisant aussi Abel Chenouf parmi les musulmans. Donc on voit bien que le glissement sémantique est patent, c'est-à-dire du fait de l'ascendance maghrébine, l'individu ne peut qu'être musulman, ce qui relève donc d'un impensé ethnicisant et racialisant. D'ailleurs, c'est la dissonance entre l'autocatégorisation et l'hétérocatégorisation qui, il me semble, va permettre de mettre en saillance la perception religieuse du terme. Si je cite par exemple le dictionnaire des sciences et des arts, en 1694, on y trouve donc une des premières définitions de musulman, où il est écrit « nom contient avoir été donné premièrement aux Sarrasins » et que les Turcs se font grand honneur de porter. Il veut dire en leur langue « vrai croyant ». On voit ici donc la tentative de définir le terme arabe de muslim en opposition entre notre langue et leur langue. On peut aussi lire dans le dictionnaire étymologique ou origine de la langue française, nous appelons ainsi un mahométan, c'est un mot turc qui signifie un homme qui croit ce qu'il faut croire. Donc on voit la fonction que prend le mot mahométan et non le mot musulman, c'est-à-dire que le mot mahométan, lorsqu'il apparaît, va plutôt servir à montrer la confession, et musulman n'est toujours pas utilisé. Durant l'époque moderne, c'est le turc qui est musulman, et lorsqu'on se convertit à l'islam, on dit par exemple que l'on s'est fait turc, dans tout un processus d'altérisation qui peut être décrit par les historiens, qui s'accompagne par exemple du changement d'habit, s'habiller comme un turc. Plus on avance vers le XVIIe siècle, plus le vocable turc va se différencier à l'intérieur de son espace sémantique. Il va y avoir des turcs de nation, des turcs de profession, et ce qui va permettre les possibilités de l'ancrage du terme musulman et du terme mahométan, puisque turc ne va plus être suffisant pour dire l'idée de ce qu'est être musulman. Donc on va voir que mahométan va prendre une importance de plus en plus important dans les usages, dans les discours, avec toutes ces déclinaisons, mahométanisme, religion mahométane, année mahométane, mahométisme, et son usage croît rapidement, contrairement à celui de musulman. La catégorie de mahométan est aussi intéressante sociologiquement, parce que c'est la première fois que mis en avance une science religieuse dans la description d'autrui, mais cette science religieuse, elle se construit à partir d'une projection de sa propre perception du religieux. C'est-à-dire que le chrétien est défini par rapport à la figure du Christ, et donc le mahométan va être défini par rapport à la figure de Mahomet. C'est aussi au XVIIe siècle qu'apparaît le mot islam en langue française. Avant, il n'existe pas, mais il va être directement translittéré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traduction vers la langue française. Ce qui peut poser d'ailleurs la question du mot muslim, pourquoi il n'a pas été translittéré en langue française comme islam, alors qu'il l'a été dans d'autres langues. Le deuxième grand mouvement avec le mot musulman est bien sûr le cadre colonial qui va être très déterminant et qui opère un tournant sémantique radical puisque c'est la première fois qu'il est vraiment utilisé. Avant il existe mais il est utilisé dans un conglomérat sémantique large et mahométan a plus d'importance dans les discours. Donc c'est la première fois que musulman est utilisé et il a la particularité d'être totalement racialisé et ethnicisé, c'est-à-dire qu'il ne désigne pas une confession. Il est utilisé par le régime juridique colonial qui va figer ses représentations. Le terme musulman décrit une seule catégorie de la population, il n'est plus une simple altérisation large liée à l'islam. Il désigne une catégorie codifiée par le droit colonial qui va s'opposer à la catégorie des Européens qui répond à la codification du droit civil. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que ce n'est pas la catégorie musulman qui va s'opposer à la catégorie catholique. Catholique est un référent invisible qui participe de la catégorie européen qui s'oppose à la catégorie musulman. Les dissonances vont s'exacerber dans le cadre colonial et vont montrer les frontières de l'appartenance, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à une confession. D'ailleurs, on trouve les catégories pendant la colonisation de musulmans chrétiens ou de musulmans catholiques. Du coup, ce qui nous renvoie un peu à ce que Nicolas Sarkozy pouvait dire, le musulman d'apparence, bien que catholique. les conversions religieuses, si on les étudie aussi dans le cadre colonial, montrent bien les dissonances. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une personne se convertit à une religion qu'elle change de statut, principalement lorsque c'est un Européen qui se convertit à l'islam. On peut aussi étudier toute la législation qu'il y a eu dans le cadre des couples de mariage de couples mixtes. Par exemple, si l'homme est de statut musulman, la femme de statut européen, l'enfant, de quel statut va être ? Et ensuite, lorsqu'il y a des divorces, ou lorsqu'il y a des décès, ou lorsqu'il y a des héritages. Donc il y a vraiment toute une codification qui relève du statut juridique. Le cadre colonial montre aussi, par exemple, la Cour d'Alger statue en 1903. Le terme musulman n'a pas un sens purement confessionnel, mais désigne au contraire l'ensemble des individus d'origine musulmane qui, n'ayant point été admis au droit de cité, ont nécessairement conservé leur statut personnel musulman, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils appartiennent ou non au culte mahométan. Donc on voit bien la différenciation qui est faite entre être musulman et être mahométan. Mahométan vient toujours désigner, porter une saillance religieuse, alors que musulman ne porte pas cette saillance religieuse, puisqu'on peut être musulman sans être mahométan. Plus qu'un statut politique, il me semble que le cadre colonial montre quatre indicateurs importants de l'ethnico-racialisation. Le premier indicateur, c'est la cristallisation d'une appartenance ethnico-raciale sur un référent a priori religieux. Le deuxième critère, c'est le caractère inné de l'appartenance à la catégorie musulman en lien avec le caractère d'innéité lié au statut d'indigène. Le troisième critère, c'est l'essentialisation d'une séparation entre la catégorie musulman et non musulman qui est retraduite en termes d'origine, une origine européenne, une origine indigène et qui exacerbe donc l'altérisation nous-eux. Et le quatrième marqueur est la construction unilatérale par l'État colonial de la catégorie musulman qui va être assignée à une population délimitée de par son caractère indigène, entre guillemets, qui est le mot de ce cadre social, et de laquelle il n'est pas possible de se soustraire. Cette assignation ethnico-raciale se retrouve aussi dans les discours politiques de la décolonisation ensuite, puisqu'on va trouver par exemple dans les déclarations de Ben Badis comment quitter l'islam, c'est aussi être traître de la cause algérienne indépendante. Donc il va y avoir tout un réinvestissement du mot musulman dans ce cadre colonial qui est fait par le pouvoir colonial, mais qui est fait aussi par les personnes qui vont s'auto-catégoriser elles-mêmes de musulmanes et non pas de mahométanes. Donc il va y avoir une disparition petit à petit de mahométans. Et il y a ensuite l'émergence du thème algérien, qui va complètement perturber l'usage du terme musulman. Ils le contournent au départ, ils sont musulmans du point de vue français parce qu'ils ne pouvaient pas être algériens. Ce qu'on trouve aussi derrière l'expression de français musulman. J'ai étudié d'autres expressions au niveau historique, comme l'expression de soldat musulman, et aussi, mais là du coup c'est un excursus, l'usage de musulmans dans les camps de concentration, puisque c'était l'État qui précédait la mort, en général, la partie des musulmans. On trouve aussi des textes de docteurs sur l'état de musulmanisme, l'état de musulmanisation. On va dire que si, durant la période coloniale, il y avait la catégorie intéressante de musulmans catholiques ou de musulmans chrétiens, dans ces camps de concentration, on va avoir la catégorie dramatique du juif musulman. Et le troisième mouvement, c'est donc le cadre postcolonial. Si le terme musulman s'est cristallisé à partir d'une catégorie singulière en cadre colonial, ce n'est pas la fin de la colonisation qui le fait disparaître, qui fait disparaître son usage, et pas du tout d'ailleurs. Il va y avoir différentes expressions qui vont émerger, le français musulman, qui va ensuite qui est une catégorie coloniale particulière et qui ensuite va s'étendre à toute une partie dans le discours commun des migrants d'Afrique du Nord. Et il n'y a pas que français musulman qui va aussi aller vers l'expression de plus en plus utilisée de population musulmane pour arriver vers communauté musulmane. Donc j'ai étudié par exemple les discours des présidents depuis 1966 et principalement en comparant ceux de Giscard d'Estaing et ceux de François Mitterrand. Et on voit bien que Giscard d'Estaing n'utilise jamais l'expression de communauté musulmane ou de population musulmane. Il n'utilise vraiment que français musulman ou alors la civilisation arabo-musulmane dans un sens large. L'expression de communauté musulmane, c'est Mitterrand qui l'utilise la première fois dans les discours. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des discours, on va arriver des expressions comme beurre ou comme seconde génération qui vont être associées à toute la représentation large du musulman qui vont petit à petit s'étendre aux enfants. Et dans le cadre postcolonial, il y a un mouvement intéressant dans l'usage de la catégorie qui est, au départ, il y a une raréfaction de l'usage de musulmans, contrairement au cadre colonial, comme une réaction. Aussi parce qu'à la sortie du cadre colonial, c'est plutôt la question des origines qui est mobilisée avec les décolonisations, et c'est plutôt la question de la migration qui est mobilisée que l'assaillant sur le mot musulman en lui-même. Noiriel va parler par exemple de l'ethnicisation de l'immigration, où va se différencier le vocable d'immigré et le vocable d'étranger. Mais le mot musulman tend à disparaître et à être moins utilisé. Et puis ensuite, à partir, je dirais, du début des 80, là, il y a un retour en force du mot musulman qui est dû à plusieurs choses. Alors, il y a un petit paradoxe qui est que les beurs, le mouvement beurs, ne va pas être vraiment associé à l'image du musulman en France. Au contraire, il va y avoir une déconnexion avec le droit à la différence qui va plus se positionner sur la question des origines et des classes sociales, où le religieux n'est pas forcément présent. Peut-être contrairement au réinvestissement qu'on a aujourd'hui a posteriori de ce qu'était ce mouvement-là. Il y a, à partir de 1981, le droit d'association qui va être le début d'une forme d'institutionnalisation de l'islam. Il va y avoir de plus en plus d'associations en France qui mobilisent cette catégorie de musulmans. Mais ça n'est pas forcément une réalité confessionnelle, c'est aussi à côté d'un référent culturel. Et on voit bien donc le passage petit à petit à partir des années 90 de la figure de l'immigré au musulman, mais avec qui s'exacerbe aussi avec l'affaire de Creil en 1989, où là il y a un retour de la science religieuse, de la définition de la représentation du musulman par une religion, mais quand elle apparaît sous la forme du problème, principalement dans les discours politico-médiatiques, avec l'affaire du foulard, ou avec la remobilisation du terme islamiste, puisque le terme islamiste est un terme qui existe depuis le XVIIIe siècle et qui signifie une pratique de l'islam, comme le bouddhisme ou le judaïsme, et qui va donc changer de signification pour, principalement par le biais académique, finalement, la création de l'islam politique et de l'analyse du terrorisme qui va mobiliser ce mot d'islamisme pour devenir le synonyme de terroriste. Donc on voit bien que quand la science religieuse apparaît avec le mot musulman, elle est posée à partir des années 90 plutôt comme un problème. Une personne, donc là j'arrive un peu plus vers mon terrain contemporain, une personne me disait, mais musulman c'est la colonisation, islamiste c'est le terrorisme, eh bien comment on va s'appeler finalement aujourd'hui, quel nom on va pouvoir utiliser pour dire notre confession? Bon, j'avais pas la réponse, alors je lui ai pas dit. Je dis que je savais pas, mais donc pour conclure cette présentation, d'un point de vue historique, on voit bien qu'on ne peut pas cliver les trois processus d'ethnicisation, de racialisation et de confessionnalisation qui se construisent en tension. Parfois, l'un est mis en saillance et l'autre est invisibilisé, mais il reste quand même présent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Je pensais qu'on est passé d'une définition exclusivement religieuse à une définition ethnico-racialisée. Est-ce que cette définition religieuse est possible, exclusivement religieuse est possible, et est-ce qu'elle a même existé un jour avec l'usage du terme musulman? Il me semble, et ça c'est du coup ma thèse, qu'à partir des années 2010, on est à l'aube d'un quatrième mouvement quant à la représentation de la catégorie musulman, qui est la remobilisation de tout ce passif qui joue sur la construction d'une mémoire collective et qui redistribue le jeu des représentations. Donc si les marqueurs d'ethnicisation et de racialisation sont présents, il me semble qu'aujourd'hui apparaît une nouvelle manière de se dire musulman qui relève exclusivement de la foi, que je nomme la muslimité, mais c'est en cours d'observation. Et on trouve ça beaucoup dans les discours de convertis à l'islam, par exemple, ou de convertis de l'islam, c'est-à-dire des personnes qui quittent la religion pour aller vers l'athéisme ou pour aller vers le protestantisme. Je fais vite. Et il y a aussi une nouvelle manière d'investir la catégorie musulmane qui est un support de politicité. Ce que je pourrais appeler la musulmanité, je dirais un peu une traduction un peu de la muslimnesse de Naomi Davidson, donc qui montre comment cet investissement de la catégorie dans la définition de soi en tant que musulman est un support d'engagement politique plus qu'un rapport à la confession ou à la foi. Toutefois, nous sommes bien au stade d'un fourmillement sémantique actuellement qui montre l'éclatement de la signification du terme, de l'espace sémantique et de la catégorisation. Certaines personnes vont se dire d'origine musulmane, mais pas de religion musulmane. D'autres de religion musulmane, mais pas d'origine musulmane. Donc il existe tout un ensemble d'expressions à considérer aujourd'hui en français et qui montrent que finalement, on sait pas. Enfin, ce que veut dire musulman, il faut toujours prendre en considération la situation d'énonciation, la culture musulmane, la sensibilité musulmane. Rouya Boutadja, par exemple, se disait musulmane fondamentale, les musulmans laïques, les musulmans d'apparence supposée, potentiel, réel, etc., etc.
Donc, merci beaucoup à Marie-Claire Villens. Et donc, on va rester dans le contexte français. Benjamin Farhat de l'Université de Paris 8, qui est non seulement doctorant au LEGS, mais aussi à TER en sciences de l'éducation à l'Université de Rennes 2, va faire une intervention sur l'expérience scolaire du Ramadan, qu'il va aborder selon le point de vue ethno-religieux en France. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais donc envisager la question de l'organisation de la pratique religieuse dans l'école à travers l'exemple du Ramadan et plus exactement du fait scolaire Ramadan. Je vais essayer de définir un petit peu, mais c'est pas l'objet, donc je vais pas essayer de pas trop me perdre, mais du fait scolaire Ramadan. Ça pose plusieurs questions, ça soulève plusieurs problèmes. C'est-à-dire que moi, mon approche est une approche sociologique. C'est une approche qualitative qui repose sur des observations participantes. Donc j'ai pris des postes de surveillants, des postes d'enseignants, et même des fois je suis intervenu en tant qu'observateur extérieur. J'ai essayé de faire le tour, de changer de position dans l'institution, de voir, parce que voilà, la façon dont on recueille les matériaux, la compréhension qu'on a d'une situation, voilà, est quand même clairement déterminée par la place qu'on occupe en tant qu'observateur. Donc j'ai essayé de tourner autour de mon objet, mais donc ça soulève sur plusieurs difficultés de parler de l'ethno-religieux à l'école. La première difficulté, c'est que l'objet même ethno-religieux, il existe depuis une vingtaine d'années, 25-30 ans dans les sciences sociales françaises, mais il n'a pas été encore clairement défini. C'est-à-dire qu'il y a déjà Dominique Schnapper qui a travaillé sur l'ethnico-religieux. Il y a Annie Benvenis. En plus, on voit aujourd'hui l'ethno-religieux, le terme est utilisé par toutes les disciplines. On voit en géopolitique, en sciences politiques. Bref, mais qu'est-ce que c'est que l'ethno-religieux? Souvent, c'est une définition tautologique qui dit c'est la prise en compte de l'ethnicité et du religieux. D'accord. Mais qu'est-ce que l'ethnicité? Qu'est-ce que le religieux? Voilà. C'est aussi une question à laquelle je ne répondrai pas parce que je n'aurai pas le temps. Sur la question de l'objet ethno-religieux. Donc, première difficulté, c'est celle-ci. L'objet en lui-même est fragile. Ensuite, dans la recherche française, il y a une dichotomisation des objets religieux et ethniques. Il y a un programme de recherche sur l'ethnicité qui s'est formé depuis les années 90 avec les travaux pionniers de Zimmermann, de Françoise Lorcery, de Jean-Paul Payet, etc., etc. Et puis il y a la sociologie de la religion d'un autre côté, qui est là, solide, forte, du haut de son centenaire, au moins. Donc c'est une difficulté à penser l'objet ethno-religieux parce qu'il y a c'est des objets qui ont été construits indépendamment avec des appareils conceptuels et théoriques différents. Donc ça oblige déjà à se pencher sur ces questions-là. Première difficulté. Deuxième difficulté, et je te rejoins complètement, le traitement de la religion et de l'ethnicité dans les sciences sociales françaises se limite. Je vais être obligé de grossir le trait, est enfermé dans le registre de la désorganisation, du problème, dans le registre de la transgression et de la déviance. Donc dès qu'on parle de religieux et d'ethnicité à l'école, c'est on parle de problèmes, revendications, communautarisme, intégrisme, violence, déviance, etc. Donc on enferme les questions religieuses et ethniques dans le domaine de la transgression, du désordre. J'aimerais qu'on revienne au père fondateur, à Durkheim, à Weber, où on envisage les solidarités puissantes que génère l'activité religieuse, ou l'impact que ça a sur le collectif, sur la façon de régénérer les normes, etc., etc. Donc, il y a d'une part, l'ethno-religieux n'existe pas, et d'autre part, le traitement qui est fait de l'ethnicité du religieux à l'école se limite à des questions de désorganisation, de désordre, de problème. Et juste un mot, ça date même d'avant les années 90, ça arrive dans l'école, dans le domaine scolaire dans les années 90 avec l'affaire du voile, mais ça commence déjà au début des années 80 avec l'affaire de l'inculture religieuse, où les musulmans dans le rapport Joutard de 89 qui va initier l'enseignement du fait religieux est directement lié à la présence de musulmans dans l'école, mais ça a commencé dans le monde du travail avec la grève des usines de l'automobile. Donc on voit que ça a mis progressivement, ça a enflé, et que finalement la question de l'islam en France a toujours été problématique, en fait, dès qu'elle est apparue. Et ça s'est propagé jusque dans l'école. Donc voilà, en préambule. La question du ramadan, le fait scolaire ramadan. Donc, je vais essayer, dans ma communication, de répondre, de traiter certaines de ces limites. La dissociation de l'objet ethnique et religieux et l'enfermement des questions en termes du registre du problème et de la violence et de la désorganisation. Donc, mes observations ont été faites dans un établissement professionnel parisien du 18e arrondissement de Paris, dans un environnement très particulier, très ségrégué, c'est-à-dire qu'il y avait 80% de musulmans. Alors, vous me direz d'où je sors ce chiffre. Eh bien, je l'ai calculé à partir des désinscriptions de la demi-pension pendant le ramadan. Voilà, tout simplement, le nombre d'élèves désinscrits de la demi-pension pendant le ramadan. Donc, c'est ceux qui déclarent officiellement à l'institution scolaire qui pratiquent le ramadan. Donc, voilà. Ensuite, c'est une situation, c'est un espace de la négativité, c'est-à-dire de la relégation, de la minorisation. Ce sont des élèves qui accumulent tous les handicaps possibles. Ils sont, si on prend les critères institutionnels, ils sont en retard, en échec. Ils parlent pas bien le français, précarité sociale extrême, ce qui est vrai en plus. Des situations familiales très dures, des parcours migratoires récents, des élèves allophones, primo-arrivants. On est dans l'univers institutionnel de la négativité. C'est vraiment, ils accumulent tous ces handicaps socioculturels. C'est un discours qui est repris par l'institution et par les personnels. Et c'est très important, j'y reviendrai plus tard, mais c'est très important pour la suite. Donc voilà un peu l'univers. Un petit établissement de 121 élèves, 70 à 90% d'élèves musulmans. C'est pour vous dresser, et puis cet univers de la relégation, de la minorisation, de l'échec, etc. C'est très important pour le reste. Donc dans cet établissement, je me suis intéressé au fait scolaire ramadan, et non pas à la fête du ramadan. C'est-à-dire que on se retrouve dans une situation où, par des mécanismes scolaires, l'école crée des communautés religieuses. C'est-à-dire qu'on en arrive à avoir 80% d'élèves qui ont la même religion dans l'école, et ça a un effet très fort sur la pratique religieuse. C'est ce qu'on verra. J'aimerais m'intéresser à deux thématiques. La première, c'est la prise en charge, l'institutionnalisation de la pratique religieuse, et la deuxième, c'est l'organisation de la pratique religieuse par les élèves eux-mêmes. Donc, dans un premier temps, sur la prise en charge et sur l'institutionnalisation de la pratique religieuse. Si on connaît son dogme laïque, on sait que depuis 1905, l'État et l'institution ne s'occupe plus de religion. Mais c'est pas aussi simple que ça. Dans les faits, l'établissement va mettre en place une procédure administrative de recensement de la pratique religieuse. Elle va distribuer un petit papier sur lequel il y a le mot ramadan qui figure et qui demande aux parents qui le souhaitent, s'ils veulent, pendant un mois, de désinscrire leurs enfants de la demi-pension. Jusque-là, à la limite, pas de problème. C'est juste que ce cadre-là, c'est un aménagement, c'est un agencement, pour parler en termes deleuziens, du cadre laïque. Et en fait, le cadre laïque n'existe pas, c'est en fait des cadres. Il y a des laïcités, moi c'est ce que je demande dans mon travail, il n'y a pas une laïcité, il y a autant de laïcité que d'espace et d'environnement scolaire. Donc c'est premièrement un premier aménagement du cadre scolaire, parce que le ramadan est un objet scolaire non identifié, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a déjà une circulaire qui prévoit des autorisations d'absence pour les fêtes religieuses. Mais ce sont des fêtes courtes, il y a 12 ou 15 fêtes, arméniennes, juives, musulmanes, orthodoxes, et une dernière, hindoue, exactement, hindoue. Ce sont à chaque fois des fêtes d'un jour qui sont reconnues. Le ramadan, ça dure un mois. C'est extraordinaire, parce que c'est très intéressant, parce que des fois, en fonction, bien sûr, vous savez, c'est un calendrier lunaire, donc ça tombe à différents moments de l'année, mais s'il n'y a pas de vacances scolaires, ça peut durer jusqu'à un mois sur le temps scolaire. Donc c'est un objet scolaire non identifié, il n'y a aucun dispositif central qui est prévu pour prendre en charge cette pratique, et d'autre part, ça dure un mois, donc ça a des effets scolaires très importants qui obligent, en tout cas c'est comme ça que c'est présenté, qui obligent l'institution à intervenir. Pourquoi est-ce qu'elle intervient? Elle intervient d'abord pour un motif financier. Du jour au lendemain, c'est vraiment du jour au lendemain, la cantine et service de la demi-pension servent de 180 repas à 30 repas pendant un mois. Faites le calcul, c'est plus de 2000 repas. Donc l'institution a besoin de quantifier, de mesurer, d'anticiper l'ampleur du phénomène. Donc c'est comme ça qu'elle justifie ce petit cadre local improvisé avec une déclaration de pratique qui est d'ailleurs interdite dans le Code de l'éducation nationale, qui interdit de recenser les opinions religieuses des élèves, sauf, parce qu'on est dans un modèle schizophrène, vous ne l'avez pas oublié, sauf au Rhin, Bas-Rhin, Moselle, ou pour l'enseignement des cours de pour l'organisation des cours d'enseignement religieux, on a le droit de recenser les opinions religieuses des élèves et on a le droit de les conserver. Mais en dehors de ça, on n'a pas le droit. Donc là, c'est déjà un des éléments du bricolage local pour ce dispositif de prise en charge du Ramadan. Donc, il y a le motif financier, le motif pédagogique, il y a une question de gestion de la déviance. Parce qu'en fait, l'institution est obligée de signaler à l'autorité supérieure les absences de la demi-pension. Pour ne pas avoir à sanctionner les élèves pour leur pratique religieuse, eh bien, il crée un cadre protecteur où les élèves, en fait, sont dispensés, sont autorisés à être dispensés de cantine scolaire, sans quoi l'établissement devrait les comptabiliser comme déviants, en quelque sorte, c'est-à-dire comme absents, ce qui peut donner lieu à des sanctions. Dans certains cas, quand les élèves sont trop absents, ils peuvent être renvoyés de la demi-pension, Donc, pour éviter de transformer la pratique en une source de transgression, c'est aussi un des motifs, le motif pédagogique, c'est d'accompagner la pratique des élèves. Et le troisième motif, c'est celui-ci, financier, pédagogique, et c'est un motif qui est cette fois plus, j'ai pas de terme précis, mais le but, c'est vraiment ça, c'est aider les élèves, ça c'est le proviseur, les proviseurs que j'ai interviewés, aider les élèves dans leur pratique. L'école n'est pas là pour faire la guerre aux élèves, ils ont le droit d'avoir une pratique religieuse, et finalement, ils ont l'interprétation la plus proche du dispositif laïque de la Troisième République et de l'ouverture libérale des années 70. Donc l'idée, c'est d'accompagner les élèves. Par contre, ils refusent de changer la moindre chose sur le cadre scolaire. On ne touche pas au rythme, on ne touche pas aux activités, on ne touche pas aux heures de début et de sortie, mais j'ai pu observer que dans d'autres établissements, dans d'autres cas avec des populations juives, il y a des questions qui se jouent sur la négociation du cadre de l'ordre scolaire. Là, ce n'est pas le cas. Les proviseurs refusent de revenir sur ce cadre. Cette procédure, je vais faire vite, parce que cette procédure, elle pose plusieurs questions. D'abord, l'ethnicisation de l'activité scolaire. Parce que moi, j'ai vu, en tant que surveillant, le CPE, courir après les élèves, Mohamed, t'as pas rendu ta feuille pour le Ramadan. Moi, je croyais bêtement que les personnels ne devaient pas être au courant et ne devaient pas faire intervenir la religion des élèves dans leur rapport. Mais dans les faits, concrètement, ça se passe comme ça. C'est un petit lycée, tout le monde se connaît. Le CPE appelle les élèves par leur prénom. Mohamed, ou Abdel, ça dépendait des cas, tu m'as pas rendu ta feuille pour le Ramadan. Donc déjà, on voit que cette procédure, c'est déjà une forme d'ethnicisation de l'activité scolaire. Et on crée cette catégorie musulman, au moins pendant le temps du Ramadan, comme catégorie de gestion. Le deuxième domaine d'intervention, et ça je vais passer très rapidement parce que sinon je tiendrai pas et j'aurai pas le temps, c'est la gestion de la déviance scolaire et du désordre. C'est-à-dire que dans le discours des personnels, quand on leur demande ce que c'est que le Ramadan, ils vous disent c'est les élèves qui sont fatigués, ils peuvent plus suivre, on peut plus travailler, ils sont énervés, ils sont excités, c'est pas possible, ils se contrôlent entre eux, il y a la police du Ramadan. Bref, encore une fois, c'est encore une somme de choses négatives. C'est-à-dire que ça ne se traduit que par des effets négatifs sur le travail, sur la concentration, sur l'activité. Sans parler du paradoxe, ce sont à chaque fois des élèves qui sont en même temps surexcités, en même temps fatigués. Bon, ils sont dans tous ces états en même temps, en quelque sorte. Donc, la gestion, l'intervention de l'institution locale, c'est la prise en charge de cette pratique religieuse par une procédure, par un recensement, qui se traduit aussi par une contractualisation, parce que pour être surveillant, je l'ai vu, on refuse pendant ce temps-là l'accès à la demi-pension pour les élèves. Si les parents ont signé ce papier, moi je ne peux pas faire entrer en tant que surveillant, j'ai une liste qui est éditée tous les jours, qui me dit quel élève peut aller manger à la cantine. Donc moi je ne sais pas si l'élève a choisi de faire le Ramadan. Il faut prendre en compte que ce sont des familles avec des revenus extrêmement faibles, et pour ces familles-là, un mois remboursé de cantine, c'est une somme, même s'ils ont des bourses. Pour les plus précaires d'entre eux. Donc il faut prendre en compte cette dimension-là, c'est-à-dire que ça a des effets, qui est-ce qui choisit de pratiquer, en plus ça a une valeur contractuelle, parce que si l'élève veut manger et qu'il veut casser son jeûne, pour une raison ou pour une autre, moi je suis en mesure, les surveillants, les personnels sont en mesure de dire non, désolé, tu te débrouilles, mais tu ne mangeras pas à la cantine. Donc voilà, ça pose c'est la prise en charge de l'intervention d'institution, ça intervient sur la prise en charge, la procédure administrative, la contractualisation du jeûne, et sur la gestion de la déviance. Mais ça, c'est très problématique, parce que même parmi les personnels, les choses ne sont pas claires, parce que pour beaucoup, ça se traduit par une augmentation des problèmes, une augmentation des conflits, une augmentation des désordres. Mais dans les faits, c'est pas prouvé. Il n'y a pas plus de procédures disciplinaires, il n'y a pas plus de sanctions de conseils de discipline. Donc, on ne sait pas trop, on n'arrive pas trop à démêler, mais bon, on va avancer après. Waouh. Sur l'organisation, alors je vais aller à l'essentiel. Sur l'organisation par les élèves. Moi, j'ai pu, à partir de ma position de surveillant, au contact des élèves, voir comment est-ce que ça s'organisait. Alors, il y a plusieurs temps. Il y a déjà le temps de l'anticipation. Avant le ramadan, les élèves commencent à s'interroger. Alors, tu fais ramadan, t'as tenu, combien de jours t'as tenu, etc. Il y a toute une atmosphère, une effervescence collective. Et moi, j'ai pu trouver le pendant positif de tous les attributs négatifs. C'est qu'en fait, le ramadan, c'est d'abord une intensification de la vie sociale. Déjà, ça s'observe dans les sociétés musulmanes. Et c'est surtout, ça s'observe chez les élèves, le ramadan, c'est un temps de famille. Le soir, il y a les fêtes, on reçoit des cadeaux, on va d'une famille à une autre. C'est un moment d'intensification de la vie sociale. Très important. Et ça se traduit dans l'école. Il y a une intensification des relations dans l'école. C'est d'abord ça, le ramadan. C'est une effervescence collective autour de la pratique du ramadan. Donc, il y a ces phénomènes d'anticipation. Et puis, il y a surtout, quelque chose qui est plus intéressante, les élèves, ils mettent en place une organisation assez impressionnante, assez autonome d'ailleurs, de leur pratique religieuse. C'est-à-dire que c'est une organisation horizontale, en réseau, qui se fait très peu, avec très peu de contact avec l'institution, j'aurais pas le temps de dire pourquoi, mais ça se fait entre eux, c'est vraiment dans l'horizontalité des rapports par groupe d'affinité, et il y a des activités extrêmement riches, c'est-à-dire que la première chose que font les élèves pendant le ramadan, c'est qu'ils passent des heures et des heures à discuter de la casuistique. Et il y a un travail très impressionnant où ils passent leur temps à dire « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que je peux serrer la main à ma copine? Est-ce que je dois faire un bisou? Est-ce que je peux me rincer le visage? Est-ce que je peux me rincer la bouche ?» Et donc là, il y a un travail très intéressant, très critique, parce que c'est l'environnement de ce LP, c'était un environnement très concurrentiel. Il y avait énormément de musulmans, mais qui venaient d'horizons culturels extrêmement variés. Il y avait l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Il y avait des parcours migratoires, des gens qui étaient là depuis 15 ans, dont les parents étaient arrivés. Il y en a qui étaient en France depuis 3 mois. Donc ils ont des rapports à la religion qui sont complètement différents, qui sont très éclatés, et donc ça donne lieu à ce processus d'homogénéisation très important. Il y a une casuistique très forte qui est aussi propre à l'islam, parce que dans le Coran, c'est pas clairement réglementé. Les motifs de rupture du jeûne, de récupération des jeûnes, ça c'est un grand sujet. Tu casses, quand est-ce que tu récupères, combien de jours tu récupères. Donc il y a tout un travail critique qui est fait, très important. Alors que les enseignants, le personnel associe ça à de l'orthopraxie, ils sont pas du tout religieux, ils connaissent rien au texte, c'est vraiment une réaction identitaire, une réaction à la discrimination, une réaction à la minorisation. C'est bien plus que ça. Il y a aussi des processus, je suis désolé, je vais vite, hein, je vais un peu vite. Il y a aussi des processus de présentation et de négociation de la norme ethno-religieuse. Et les élèves, entre eux, ils présentent. Tiens, moi, dans ma famille, on mange comme ça. Dans ma famille, on fait ça. Mon père, il m'a dit que... Et on voit qu'à travers ces processus de négociation et de présentation des normes, eh ben, ils construisent un système normatif dans l'espace scolaire pour réguler leurs pratiques religieuses et en dehors de l'institution. Dans mon travail, j'ai pu montrer que les profs sont sollicités. J'ai moi-même été sollicité en tant qu'enseignant. On m'a demandé d'arbitrer entre deux élèves. Est-ce que c'est vrai que le prêt, c'est pas bien? Le prêt avec intérêt, c'est pas bien. J'étais prof d'éco, alors on m'a questionné sur ces questions-là. Donc il y a une sollicitation, mais qui est faible, mais qui a quand même son importance. Donc les élèves, ils organisent leur pratique en réseau, par groupe, et ça c'est en partie conditionné par l'école. Et donc ça c'est une dimension proprement scolaire. Qu'est-ce qui se passe avec l'arrivée du ramadan? Eh bien, il y a une densification de l'espace scolaire. Il y a une toute petite cour, des petits espaces, un petit hall. Du jour au lendemain, quand vous avez 80% d'élèves qui pratiquent le ramadan, pendant les 2 heures de la demi-pension, d'habitude, les élèves, ils se croisent, ils sont jamais tous ensemble au même endroit. Parce que quand ceux qui mangent à la première heure, ceux qui arrivent à la deuxième heure, ceux qui ont mangé avant, retournent en cours. Et là, pendant le ramadan, pendant ces 2, voire certains 3 heures, ils se retrouvent tous ensemble dans un espace qui est tout petit, que d'habitude, ils peuvent occuper un peu plus librement. Là, ils doivent se partager l'espace. Donc, il y a des conflits qui peuvent intervenir sur le partage de l'espace, sur l'occupation de l'espace. Et donc, en fait, l'école crée donc ce cadre-là, cette densification de l'espace, qui a plein d'effets par la suite sur l'activité des élèves. Cette densification de l'espace, ça oblige à l'ouverture des groupes de pairs. L'espace, il faut se le partager. Pour ceux qui connaissent les situations scolaires, ils savent qu'on n'occupe pas la salle, on n'occupe pas des espaces dans l'école au hasard. Les gens, ils ont leur point de ralliement. Il y en a qui se retrouvent au niveau du banc. Il y en a, voilà. Et là, ils sont obligés de se partager l'espace. Donc, les groupes de pairs s'élargissent. On rentre plus facilement d'un groupe de pairs à l'autre. Et je vais encore abréger là-dessus. Sur la, est-ce que j'ai deux minutes? Sinon, sur un dernier point, sur l'adhésion religieuse et les modalités de l'adhésion religieuse des élèves, je me suis intéressé à la dimension contestataire et réactionnaire, parce que le paradigme dominant, c'est ça, c'est un rapport contestataire à l'islam. Alors je me suis demandé, très bien, je vais prendre toutes les prescriptions normatives que j'ai recueillies, je vais voir en quoi il y a contestation, en quoi il y a une subversion, une remise en cause, une critique. J'ai pris toutes celles auxquelles j'ai eu accès. Il n'y en a qu'une, en fait. Il n'y a qu'une norme qui peut être considérée comme transgressive. C'est la norme du crachat, et qui est minoritaire. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, c'est une élève qui crachait en cours et qui demandait à sa camarade d'aller cracher dans la poubelle, par exemple. Si tu craches, si tu avales ta salive, tu casses le jeûne. Donc, il faut cracher. Or, c'est interdit dans l'école de cracher, c'est dans le règlement intérieur. On pourrait considérer ça comme une pratique transgressive, sous une seule condition. C'est que la pratique a été sanctionnée, c'est ce que j'ai vu par moi-même, et des élèves, malgré la sanction, continuaient à vouloir cracher. Donc là, il y avait clairement une opposition. Mais là, je parle de deux élèves. Hein. Je parle de deux élèves sur les je ne sais pas combien d'années que j'ai passées dans l'éducation nationale. Je parle de deux élèves. Donc, à partir de là, on peut voir une pratique transgressive ou une pratique qui s'oppose à l'ordre local. Sinon, c'est en parfaite adéquation. Qu'est-ce qui est mis en avant pendant le ramadan? Le respect. Le respect des autres, la maîtrise de soi, de la parole, la maîtrise de ses passions, la maîtrise de ses pensées, c'est la gestion de ses rapports aux autres. Et si on voit les normes qui sont développées par les élèves, les prescriptions normatives développées par les élèves, elles concordent parfaitement avec les prescriptions normatives de l'ordre scolaire. J'ai essayé de chercher encore la contestation, la réaction, l'opposition dans la figure du bon pratiquant. On va voir qu'est-ce que c'est que le bon pratiquant. Le bon pratiquant, c'est quelqu'un qui sait se contrôler, qui sait se maîtriser, qui sait mettre à distance les passions, certains tourments, qui sait contrôler sa parole. C'est quelqu'un qui est respectueux, c'est quelqu'un qui fait des efforts, c'est quelqu'un qui s'engage dans l'effort. Et si on prend la figure du bon élève, elle colle en tout point. La figure du bon musulman, du bon pratiquant du ramadan, développé par ses élèves dans cet établissement, colle en tout point avec la figure du bon élève. Et là, je reprends ici une analyse très intéressante de Foucault entre les liens entre l'ascèse scolaire et l'ascèse religieuse, qui sont quasi identiques pour Foucault. Il y a quand même la finalité qui n'est pas la même, l'émancipation et la soumission. Mais mis à part ça, il y a le ramadan, c'est un processus, c'est ce que j'ai pu observer, c'est un processus d'acculturation scolaire. C'est-à-dire que les normes développées par les élèves pendant le ramadan sont des normes promues par le système scolaire et par la forme scolaire, par la culture scolaire. Donc j'ai essayé dans mon travail, j'ai vu que cette question des modalités réactionnaires de l'adhésion à l'islam, moi je ne l'ai pas observée dans des milieux très précaires, qui accumulent tous ces handicaps qui pourraient laisser penser qu'ils réagissent à la discrimination, à la minorisation. Je ne l'ai pas trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, je dis juste que moi je ne l'ai pas trouvé, et qu'il y a en fait une proximité énorme, une complémentarité énorme entre l'expérience religieuse des élèves et leur expérience scolaire. Donc je vais me forcer à conclure.
Bon, donc merci à tous les deux, on va passer au débat, puisque nous sommes censés terminer vers 5h, mais on va peut-être prolonger d'un quart d'heure, 20 minutes, enfin on va voir.
Merci beaucoup pour vos présentations à tous les deux. J'ai deux questions pour Marie-Claire et une question pour Benjamin. Marie-Claire, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un peu de ethnicisation et racialisation et quelle est la différence entre les deux. Et aussi une question sur est-ce que tu as rencontré aussi l'usage du mot mort, enfin M-A-U-R, pour parler des musulmans à une certaine époque. Et pour Benjamin, j'avais une question sur le statut de la prière à l'école. Est-ce qu'il y a un agencement pour faire des prières pendant le mois de ramadan ou pas? Voilà. Merci.
Pareil le coup. Bien sûr, c'est une question que je me pose, qui a accompagné toute ma recherche, parce que quand j'ai débuté cette recherche, j'avais pour ambition de ne traiter que de l'ethnicisation. Donc j'ai rencontré la racialisation sur mon chemin, je dirais même la racisation, si je reprends le vocabulaire du colloque que j'ai co-organisé avec Simona à côté et Claire-Vincent Maury. Donc, l'ethnicisation, si tu veux, comme j'avais préparé, je vais reprendre mes notes. L'ethnicisation, pour moi, je le prends comme un processus qui construit les frontières. C'est-à-dire que ça s'intéresse surtout aux frontières, avec Frédéric Barthes, surtout, c'est-à-dire la manière dont on va se représenter un groupe d'une manière ethnicisée et dont on va lier ce groupe à un contenu culturel, à une langue, mais aussi à un phénotype singulier, à une religion, etc. Donc c'est surtout la construction. Et c'est pour ça qu'on parle d'ethnicisation, c'est-à-dire vraiment le processus qui construit, qui va ethniciser un groupe. Et donc, non pas forcément un groupe ethnique, puisque c'est une objectivation déjà, un groupe ethnique. Et la racialisation, eh bien, en ce qui me concerne, les différences, c'est très compliqué justement de les établir. C'est pour ça que j'ai un peu pris le parti d'utiliser souvent le mot d'ethnico-racialisation ensemble. Et du coup, là, ethnico vraiment pour le lier à l'ethnicité et à l'ethnicisation et pas à l'ethnique, donc pas l'ethno-racialisation. Et la racialisation... Je la comprends comme plutôt dans le sens du coup de la racisation dans le vocabulaire français qui le lit plutôt à Colette Guillaumin, c'est-à-dire la construction d'un fait de race, comment on va prendre des données qui sont des données, des statuts ascriptifs, c'est-à-dire qui précèdent la naissance. Enfin, les données ne précèdent pas, elles sont perçues comme précédant la naissance et elles vont être naturalisées, biologisées. Et elles vont aussi être assimilées à des valeurs. Donc si on reprend par exemple l'idée de la racisation développée par la littérature francophone, mais aussi Colette Guillaumin, le genre par exemple peut être très bien racisé lorsqu'il est construit comme un fait de race. Et d'autres catégories qui ne sont pas forcément liées à des traits phénotypiques, comme par exemple la sexualité. Donc l'homosexualité, l'hétérosexualité peut être racisée aussi. Donc je la comprends vraiment dans le sens de processus. En fait, je me sens proche de toute la littérature qui utilise plutôt le mot racisation que le mot racialisation. Racialisation arrive plutôt, il me semble, de la littérature anglophone. Et je ne sais pas si dans la littérature anglophone, il y a vraiment cette perception, cette différence qui est faite. Et là, je suis peut-être méconnaissante sur le sujet. Et en fait, bon après, c'est personnel. Pourquoi j'ai décidé d'utiliser racialisation, ça changera peut-être après. C'est avec le vocable raciste, entre le sens commun et le sens académique, j'ai fait un petit blocage là-dessus, mais ça changera peut-être. Et voilà. Et du coup, la confessionnalisation, c'est comment on construit un fait religieux. En fait, c'est parler de faits sociaux. Mais c'est très compliqué de différencier. Finalement, l'ethnicisation et la racialisation. Alors, la différence qui peut être évoquée, c'est que la racialisation va plutôt s'intéresser à la structure, du pouvoir, au rapport dominant-dominé et à un ancrage politique qui est beaucoup plus fort. Donc, en fait, j'ai décidé de m'intéresser aux deux dans ma thèse parce que, du coup, par exemple, quand je parle de j'essaie d'évoquer l'ethnolinguisme, et comment la sacralisation de la langue arabe participe l'autocatégorisation en tant que musulman, je vais trouver beaucoup plus d'éléments dans les chercheurs qui traitent de l'ethnicisation sur ce sujet que ceux qui vont traiter de la racialisation. Mais lorsque je fais un terrain, par exemple, au Parti des indigènes, et que j'essaie de comprendre comment eux, ils se définissent en tant que musulmans, ils appellent à une race sociale, donc ils vont se définir en tant que musulmans par rapport à la structure du pouvoir, au rapport dominant-dominé. Et là, du coup, je trouve beaucoup plus d'éléments dans la théorisation de la racialisation que dans l'ethnicisation. Et en même temps, tous les deux, l'ethnicisation et la racialisation, participent du même fait, ont des faits communs qui fait que c'est difficile à partager. Alors, j'ai été voir plein de chercheurs que j'ai questionnés pour savoir quel terme je devais utiliser. Et selon les chercheurs que j'ai été voir Justin Streifenard, Nasser Aghani-Souleymane, leur dire qu'est-ce que je fais avec ma recherche. Et selon les personnes que j'avais, en fait, on m'a toujours donné une Myrna Safi, une, quelque chose de différent. On m'a dit, bah, toi, tu t'intéresses beaucoup à la langue, alors c'est plutôt de l'ethnicité. Et l'autre, ah bah non, avec les musulmans, ça c'est de la racialisation. L'ethnicisation, il ne faut même pas en parler. Donc c'est un peu compliqué aussi dans la projection aussi quand on utilise une catégorisation, quoi, la littérature avec laquelle on travaille. Peut-être, je ne sais pas si quelqu'un a des choses plus...
Ah, sur l'ethnicisation et la racialisation, on m'avait proposé une... Je ne sais pas ce que ça vaut, hein, mais en tout cas, ça avait paru pertinent, mais c'est discutable. En reprenant l'analyse barthienne, processus d'attribution catégorielle, c'est un peu des coquilles vides pour Bardia, les groupes ethniques. Il n'y a pas de substance. Chez Weber, on peut retrouver cette substance de l'activité communautaire. Chez Barthes, on ne la trouve pas. C'est vraiment un processus de désignation, d'auto-attribution et d'attribution chez l'autre d'une altérité. Et ça suppose, c'est très important, c'est le mouvement chez Barthes. C'est un processus dynamique, les frontières sont poreuses, elles bougent, elles changent, les marqueurs d'identité changent, on peut devenir un X, peut devenir un Y peut devenir un Z, voilà. Et moi, ce qu'on m'avait donné pour la racialisation, c'est le même processus, c'est juste qu'il se ferme, et qu'une fois qu'on fige une appartenance, on ne permet plus à l'autre ce mouvement-là. C'est-à-dire que quand on le racialise, dans cette perspective-là, c'est qu'on suppose l'absence de mouvement, et l'impossibilité pour l'individu de sortir de sa catégorie et de prétendre à endosser une autre identité. Donc c'est l'idée de figer et de la naturaliser, de l'objectiver, de lui donner une origine biologique, etc. C'est valable dans la perspective développée par Barthes. C'est-à-dire qu'à partir de Barthes, on peut penser la racialisation comme l'absence de mouvement et de communication entre ces frontières. Voilà. Donc ce serait
juste en complément, sauf que Barthes ignore l'échelle historique et que si on considère les travaux de Homi et Winans, par exemple aux États-Unis, ils montrent comment la ligne de la couleur a pu être déplacée et comment certains groupes ont pu être racisés et ensuite ethnicisés, comme les Italiens aux États-Unis. Voilà. Donc pour certains, ceux qui paraissaient ne pas pouvoir bouger a pu bouger, mais pas pour tout le monde, puisque les Noirs continuent d'être Noirs. Voilà. Soit-ils protestants, africains, musulmans, etc. Voilà.
Sur est-ce que je réponds sur la question de la prière?
Oui.
Alors il y a deux niveaux de réponse. Premier niveau, c'est au niveau national et central. Oui, c'est-à-dire que la laïcité a organisé l'extériorisation, la déterritorialisation de la religion, mais pas tout à fait. C'est justement le malentendu. On croit que c'est l'absence de la religion. Le dispositif laïque de la Troisième République, renforcé par la loi Debré de 59, par la volonté de prise en compte du catholicisme, notamment par De Gaulle. La personne qui a écrit là-dessus, c'est le nom qui m'échappe. Il y a le système des aumôneries. Seulement, il y a un vrai problème en France. C'est-à-dire que déjà, c'est bizarre, on est un pays de la statistique. Hein, on est un des pays qui a inventé la statistique. On a des statistiques sur tout. On sait combien les gens mangent de Big Mac, à quelle heure, quel âge ils ont, leur couleur de cheveux. On ne sait pas combien il y a d'aumôneries en France. Les seules infos qu'on ait, elle date de 2004, une question a été faite au ministre de l'Éducation. Il a répondu sur des données sur 16 académies, uniquement sur 16 académies. Les chiffres, c'était à peu près 2000 aumôneries catholiques, ou 2500. Ensuite, il y a quelques aumôneries protestantes, moins d'une centaine, et quelques aumôneries israélites. Zéro aumônerie musulmane. Zéro. Donc un musulman, d'une manière générale, qui veut pratiquer sa religion, avoir une information religieuse à l'école, il en a le droit, mais il ne peut pas l'exercer. Donc, il y a des conditions précises pour ouvrir une aumônerie, ça soulève d'autres questions. Est-ce que les parents sont informés? Est-ce qu'ils savent? Mais dans cet établissement, donc premier niveau central, oui, niveau national, il y a une possibilité de prier à l'école. Moi, j'ai assisté à des messes dans les écoles, à Louis-le-Grand notamment, il y a des messes qui sont organisées avec les élèves, les profs. Bon, j'ai assisté, c'est tout à fait compatible avec le dispositif laïque, tout à fait. C'est même prévu par le dispositif laïque et c'est fait partie de la reconnaissance de la liberté d'expression et d'opinion. Seulement, dans les faits, aucune aumônerie musulmane en France, aucune. Deuxième religion de France dans le système éducatif, aucune religion musulmane. Et dans l'établissement, on n'en parle même pas. Moi, j'avais des élèves, ça m'arrivait deux fois que des élèves viennent me demander de leur ouvrir une salle pour prier. Parce qu'ils savent que s'ils se font voir dans un couloir, ils peuvent se faire envoyer. Donc moi, ça m'a mis dans une position où je ne savais vraiment pas quoi faire. Je me disais, mais mince, j'ai devoir de neutralité, etc. Qu'est-ce que je fais? Je leur ouvre une salle. Je vous dis, je leur ai ouvert une salle. Théoriquement, ils devraient pouvoir disposer d'un espace. Dans les faits, ils disposent sur tout le territoire français, hein, même en Alsace-Moselle. Hein, ils ne disposent d'aucun espace de prière, contrairement aux israélites protestants et catholiques.
Et c'est la catégorie d'israélites qui est utilisée?
Oui. En fait, d'un texte à l'autre, ça va dépendre. C'est-à-dire que dans le...
C'est une ancienne catégorie.
Bien sûr, mais c'est plus
tellement...
Oui, c'est plus tout à fait désuet, mais pas totalement. Dans la réponse du ministre, il parle des aumôneries israélites. Voilà. Donc, il y a un grand mystère sur les aumôneries. Ça pose des vraies questions sur le rapport à la pratique, à l'information religieuse. C'est ça, un espace d'aumônerie, c'est une information religieuse. Il n'y en a pas. Est-ce que les familles sont au courant? Est-ce qu'on s'oppose à l'ouverture d'aumônerie? Parce qu'en fait, il y a une procédure qui a été élargie en 59. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et surtout, il y a un tabou, il n'y a pas de chiffres. Et le ministère refuse de donner des chiffres. Moi, je les ai appelés, je les ai contactés, j'ai appelé la Ligue de l'enseignement. Ils m'ont dit, ah non, on n'a que ça. On n'a que ces données qui ont été données sur 16 académies par le ministre à l'oral à l'Assemblée nationale. Quand même étrange. Enfin, il y a une volonté de ne pas faire apparaître de chiffres là-dessus, quoi. Ça, c'est sûr.
Sauf si quelqu'un veut partage. Ah non.
Je reprendrai après.
C'est l'heure qui tourne.
Si.
Ah oui. Non, j'avais une question pour Benjamin. Je voulais savoir si quand tu as travaillé sur ces jeunes qui définissent entre, qui parlent des normes, hein, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Est-ce que tu as essayé de voir en fonction du genre, en fonction de la date d'arrivée, en fonction de la nationalité, ces négociations? Et aussi, est-ce que donc tu as travaillé dans un établissement qui est 80% ou 80% des élèves font le ramadan, est-ce que tu as étudié du coup les relations entre ceux qui font le ramadan et ceux qui le font pas, et qu'est-ce qui se passe?
Eh bien alors, oui et non pour les deux questions. C'est-à-dire que la question du genre, je l'ai un peu négligée, parce que j'ai essayé de traiter d'avoir d'autres approches. C'est pas une bonne chose, mais j'étais obligé d'effectuer un tri. Moi, je me suis intéressé à la question des distributions des postes d'autorité et de légitimité. Qui peut intervenir? Qui est écouté? Qui est-ce qui est en mesure de dire, ben non, c'est comme ça qu'il faut faire et pourquoi on l'écoute? Première chose que je me suis rendu compte, c'est que c'est absolument pas lié à une maîtrise des connaissances dogmatiques. C'est-à-dire que l'élève qui maîtrisait le seul élève qui était capable de citer le Coran en arabe dans les textes, il a tout de suite été décrédibilisé. Pourquoi? Parce qu'il avait une approche stricte et une approche qui ne prenait pas en compte l'expérience individuelle, émotionnelle et familiale de la religion. Et c'est dans cette approche-là, qui est caractéristique de l'évolution du rapport au croire dans les sociétés postmodernes, ultramodernes, hypermodernes, ce qu'on veut, en Europe, et pas qu'en Europe, c'est caractéristique le phénomène de désinstitutionnalisation, le phénomène d'individualisation du croire, ce bricolage qui a toujours existé, mais qui est théorisé depuis pas longtemps, Daniel Hervieux-Léger, Jean-Paul Willem, etc. Donc ces musulmans, ces élèves musulmans s'inscrivent complètement l'évolution du rapport au croire. Et cet élève qui arrivait avec son autorité institutionnelle, qui citait les sourates du Coran, au début il a une aura, il avait un charisme, c'est vrai, c'est un élève très intelligent, très doué, mais il s'est tout de suite fait rejeter par ses autres élèves parce que il ne leur permettait pas d'avoir cet espace de négociation où ils peuvent mettre un peu de leur identité, un peu de leur expérience, de leur vécu pour adapter la norme religieuse, la prescription religieuse à leur expérience vécue de la religion. Donc je me suis intéressé à la question des postes de légitimité et d'autorité, mais pas à travers la question du genre. Et sur la question des élèves qui ne sont pas musulmans, étant donné que ils sont très intégrés en fait à ces processus, ils font partie, complètement. C'est-à-dire que c'est une organisation horizontale par affinité. Le Ramadan, ça a un double mouvement. C'est d'une part, ça renforce les frontières externes vis-à-vis du nous extérieur non musulman, mais ça abolit et ça assouplit énormément les frontières internes. Parce qu'on voit que pendant ce temps-là, les clivages sénégalais, marocains, tunisiens, ils s'estompent. Pas totalement, hein, mais ils s'estompent. Donc il y a un affaiblissement des frontières internes au profit d'un renforcement de la frontière externe, du nous extérieur, du non-musulman. Et ces élèves non-musulmans, en fait, moi, il me semble que les élèves tirent leur légitimité à intervenir à partir de leur qualité de membre des groupes de pairs. Et pas du tout à partir de leur qualité de musulmans, d'appartenance religieuse. C'est-à-dire que les élèves non musulmans, il y a aussi beaucoup d'élèves chrétiens, il y avait beaucoup d'élèves chrétiens, évangélistes, d'Afrique subsaharienne, ils participent à ces discussions, mais autant que les autres. Parce que selon moi, ce qui donne la qualité de la légitimité, c'est le statut de membre du groupe de pairs. C'est à partir de ça que ça se fonde, en fait. Par contre, ça crée une très grande instabilité. Vu qu'on n'est plus dans la verticalité, il n'y a plus d'imposition des règles, ça ne vient pas d'en haut, ça crée une très forte instabilité. Il y a une précarité des postes de légitimité, ce qui fait qu'il y a cette concurrence, cette compétition en permanence pour définir les règles. Il y a plein d'autres raisons, le caractère concurrentiel, la diversité des parcours migratoires. Mais étant donné que j'étais dans une approche où, par exemple, je pouvais entendre un discours, j'étais surveillant, je bossais, je m'arrangeais pour rester à côté des élèves ou pour dire bonjour à un élève et venir dans le groupe. Et bien après, j'avais pas de suivi. C'est-à-dire que j'entendais, je captais la discussion, mais je pouvais pas forcément revenir sur chaque, savoir, tiens, lui, quand est-ce qu'il est arrivé en France, etc., etc. J'ai pu le faire pour les élèves que je connaissais le mieux, mais effectivement, ça, c'est une des limites. J'ai pas abordé les questions de genre et un peu moins que les questions du parcours migratoire. Mais je l'ai fait superficiellement.
Questions.
Ah oui, à trois même. Excuse-moi. Juste une information. Est-ce qu'il y a un débat en France, peut-être, je ne sais pas, sur la possibilité d'introduire dans l'enseignement scolaire une heure d'histoire des religions et qui ne soit pas liée à la confession, c'est-à-dire pas les rabbins aux juifs, les catholiques aux catholiques. Par exemple, en Italie, on a l'heure des religions catholiques, oui. Mais ce sont des catholiques qui enseignent. Mais il y a un débat pour introduire, justement, parce que moi, j'ai fait mon petite expérience ici au GSRL, et je me disais, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'islam, sur le bouddhisme, sur n'importe quelle religion, et pourquoi ce savoir ne va pas transmis aux gens qui ont besoin de savoir, des infos. Et alors, c'est comme ça qu'on va après influencer les sens communs. Et alors, n'arrive pas que Hollande dise trois Algériens, non, comment, trois musulmans après sept Français. Je comprends. Ok, merci.
Qui veut répondre? Moi, je peux, mais sinon, je partage un peu.
Et je compléterai, je
ne
sais pas.
Il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas, il y en a. C'est-à-dire qu'il y a, il n'y en a pas, il y en a. Alors, si tu fais le « il n'y en a pas », je fais le « il y en a ». Et je fais « il y en a ».
C'est une place modèle où, par exemple, il y a des enseignements chrétiens qui recoupent le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme, mais où il faut s'inscrire du début jusqu'à la fin du cycle scolaire. Et on ne peut pas demander de sauter tous les ans d'un cycle à l'autre pour avoir une mission dans ces cours, puisqu'ils sont, il s'agit d'enseignements religieux. Parfois, pour le christianisme, il y a même des doctrines créationnistes qui sont présentées aux élèves sans que les parents puissent, dans la classe, prendre position, ce qui a posé parfois problème en Alsace. Voilà, mais il n'y a pas, en tout cas, il n'y a pas il n'y a pas eu tous les débats qui ont pu exister en Italie à partir de la fin des années 80 sur l'histoire des religions. Voilà.
Alors, et il y a.
Mais voilà, en tout cas, au sein du ministère. Hein,
oui, mais il y a aussi. Mais la France, c'est un statut particulier dans toute l'Europe et même dans le monde. On est les seuls à ne pas avoir d'enseignement spécifique dédié, il y a partout en Europe, sur l'enseignement. Soit confessionnel, soit non confessionnel de la religion. En fait, en Europe, ça se partage en deux. C'est des pays qui ont un enseignement confessionnel, non confessionnel. Après, ça se partage entre ceux où l'enseignement est facultatif et ceux où l'enseignement est obligatoire. Mais en France, on a un statut complètement hybride, qui s'appelle l'enseignement des faits religieux, qui est complètement lié, dont l'émergence est liée à la perception de la présence de groupes musulmans en France, et qui est liée aussi à la thématique de l'inculture religieuse. Encore une fois, un manque, une défaillance, un déficit. Voilà, religion, déficit, problème. Donc on a mis en place ces cours d'enseignement des faits religieux qu'on a rebaptisés, que j'ai vu cette année, des faits d'enseignement laïque ou civil. J'ai entendu laïque de la bouche de la ministre. Civil, alors oui, ça c'est l'enseignement civique et moral. Sur l'enseignement des faits religieux, en une phrase, en fait il existe mais il n'existe pas. Il n'y a pas d'horaire dédié, c'est chaque prof qui décide et c'est une approche scientifique, objective et historienne, oui, parce que c'est aussi Joutard, c'est un historien qui a lancé ça en 89. Debré, il a fait que reprendre les grandes directives de Joutard dans son rapport. Il n'y a pas d'heure dédiée. Il y a très peu de formation, c'est très inégalitaire la formation des profs. D'une académie à l'autre, d'un UFM à l'autre, on ne va pas les former ou ils vont être plus ou moins formés. Il n'y a pas d'examen dédié. Chaque prof choisit soit d'en faire une heure, soit de pas en faire une heure, d'aborder tel point du programme d'enseignement des faits religieux ou pas. Je vous invite aux travaux de Mireille Estivalès, qui a travaillé là-dessus, un très bon ouvrage sur les limites de l'enseignement du fait religieux. Il y a aussi Philippe Godin, enfin, il y en a d'autres. Tout ça pour dire que ça existe, mais dans les faits, c'est très éclaté, ça dépend d'un établissement à l'autre, d'un enseignant à l'autre, et il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a pas de contrôle spécifique, ce n'est pas une discipline. C'est une approche transdisciplinaire, on n'a pas de CAPES d'enseignement des faits religieux. C'est une approche transdisciplinaire, on va confesser au prof d'histoire, au prof de philo, au prof de SES, au prof de bio. Donc en fait, il y en a et il n'y en a pas.
Au sens que c'est transversal, mais pour la sexualité, le planning familial est convoqué à l'école publique, tandis qu'aucune association religieuse ou qui pourrait être en lien avec la religion est convoquée à l'école publique.
Eh ben, alors ça dépend, oui. Par exemple, il y a une association qui s'appelle, dont le nom m'échappe, mais qui prépare des outils pédagogiques pour les profs, pour enseigner le fait religieux. Il y en a de plus en plus. C'est ça, exactement, enquête. Exactement. Il y a d'autres dispositifs où là, il y a des outils qui peuvent prévoir l'intervention de personnel, de spécialistes, en tout genre. Mais c'est marginal, c'est-à-dire c'est une poussière. C'est ça. C'est balbutiant.
C'est en région parisienne ou c'est à l'échelle nationale? Je pense que ça existe dans d'autres régions aussi.
Mais c'est une association de l'hôpital. C'est ça. Ouais. Elle est très demandée, oui, non, il y a une vraie demande de la part là.
Oui, alors, j'ai trouvé vos exposés vraiment passionnants, donc merci. Moi, j'ai plutôt une question à Marie-Claire sur la socio-histoire un peu de la fabrication de la catégorie du musulman. On voit bien, enfin, tu as assez bien montré que en fait, c'est une catégorie aussi qui se réactive historiquement. Et la question que je me pose, c'est précisément quelles sont les conditions historiques qui favorisent sa réactivation. Et qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une catégorie à une autre? Quels sont les connecteurs logiques, les connecteurs sociologiques qui fait que, par exemple, on passe de la catégorie d'immigrés à la catégorie de musulmans? Qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, je ne sais pas si tu traites aussi du rôle tout à fait significatif et décisif du savoir dans la fabrication de la catégorie du musulman, c'est-à-dire du discours scientifique de ceux qui ont contribué à la catégorisation à la construction scientifique de la catégorisation du musulman. Ça me fait penser à un bouquin de Hervé Lebras qui a très bien montré ça dans Le démon des origines, où il montre que les scientifiques, c'est-à-dire les institutionnels, les chercheurs, ont contribué à officialiser et donc à créer dans les têtes, dans les esprits, la catégorie d'origine, la catégorie du musulman, les catégories ethniques, etc.
C'est en lien ? À un moment donné, quel était le corpus des textes que tu as étudié, Marie-Claire, hein, que tu as étudié, parce que à un moment donné, ces termes-là sont très très utilisés dans les années 80, tout ça, 90, et le terme islam de France est apparu aussi. Enfin, il faut un islam de France, etc. Donc, il y a un vrai enjeu politique, si je peux dire, à confessionnaliser les musulmans, les travailleurs immigrés qui deviennent des musulmans. Donc, c'est quand même. Donc, quel corpus, voilà. Donc,
alors ça va un peu avec cette question du terme musulman qui apparaît assez neutre parce qu'il renvoie directement à la religion. Mais est-ce que dans les discours publics, il n'est pas souvent associé à quelque chose qui renvoie à une étrangéité? C'est-à-dire que ce qui est toujours étonnant, c'est que dans certains discours politiques notamment, c'est toujours la religion de l'ailleurs. Et le musulman est toujours renvoyé au fait qu'il ne serait pas vraiment complètement français. Donc est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez dans les discours et comment c'est construit? Et l'autre question, c'est sur la question de la cantine. Est-ce que ce que vous avez décrit sur la cantine n'est pas aussi possible parce que le statut juridique de la cantine n'est pas le même que celui des cours? Je ne sais pas si c'est le cas dans le secondaire, mais dans le primaire en tout cas, on est dans une logique de service qui n'oblige pas aux mêmes règles de neutralité. je dirais, et qui montre aussi, qui entraîne toutes les polémiques qu'on a actuellement sur le fait que des mairies peuvent être inclusives ou exclusives dans leur gestion de la cantine. Est-ce que ce statut-là, paradoxalement, permet pas des accommodements raisonnables à la française, là où il y a de la bonne volonté, et des exclusions là où il n'y a pas de bonne volonté, quoi. Enfin, est-ce que ce statut juridique qu'est-ce que ça permet ou pas dans le jeu social entre institutions et élèves?
Si je puis me permettre, le lycée relève de la région, je pense, mais la cantine relève de la municipalité. C'est un service périscolaire, ce n'est pas l'école, c'est pas le ministère qui la gère.
Je ne sais pas.
Pas au lycée?
Moi, je ne sais pas. En tout cas, je sais en quelle mesure le personnel intervient dans la gestion de ce service. Mais après, si au niveau financier, les fonds viennent de la municipalité ou des prestataires, ça, je ne sais pas. Moi, j'aurais une question aussi, qui, à mon avis, c'est pas redondant, mais ça rejoint les questions qui ont été posées. C'est dans la question, est-ce que tu t'intéresses à la définition des critères de la religiosité dans l'islam? Parce que certains chercheurs ont montré qu'on appréhende la religiosité dans l'islam à partir des critères de religiosité du christianisme, et que, par exemple, le rapport à la prière, c'est un des éléments centraux dans l'évaluation, mais qu'ils ont montré, je pense à Homero Maroungui, à Mohamed Ababou, qu'on a essayé de montrer justement qu'il y a une spécificité de la religiosité dans l'islam, et qu'on ne peut pas définir et appréhender cette religiosité avec les marqueurs traditionnels, la prière, la fréquentation de l'église, avec les marqueurs traditionnels. Et par rapport à ça, comment est-ce que toi tu te positionnes? Et deuxième question qui rejoint avec les autres, en quelle mesure tu prends en compte les processus politiques et collectifs et les tensions autour de la désignation? Parce qu'effectivement, il y a des vraies tensions sur... C'est un processus d'attribution, mais aussi d'auto-attribution. Et les gens revendiquent. Il y a un moment, certains se revendiquaient beurre, puis ils ont délaissé le qualificatif beurre. Est-ce que tu prends en compte ces tensions politiques autour de la définition des identités collectives?
Peut-être qu'il vaut mieux que tu répondes et ensuite que tu répondes.
Moi, c'est plus rapide. Voilà. Sur la cantine, l'agencement, il tient surtout à ce que la dimension religieuse de l'événement, eh bien, elle apparaît dans la procédure. C'est-à-dire que sur le papier, il est clairement dit pour le ramadan. D'accord ? Donc effectivement, c'est un service qui est facultatif. Donc on pourrait décider... En fait, là, c'est l'établissement qui, de lui-même, prend les devants, décide de contacter les familles, décide de leur demander de signaler s'ils pratiquent la religion ou pas. Enfin, c'est pas ça. C'est ce qu'ils souhaitent, que leurs enfants soient désinscrits et donc se fassent rembourser. Donc cet agencement, il n'est pas contraire au cadre laïque. Il est permis par le cadre laïque, même pas par le service, la dimension juridique. Mais c'est surtout, par contre, l'enregistrement des opinions religieuses et la conservation et l'intervention dans cette procédure. On voit le CPE qui va chercher l'élève, tu vois, l'intervention dans les pratiques éducatives des catégories ethniques et religieuses, c'est plus ça, l'agencement il relève plus là-dessus. L'adaptation par rapport au système central il relève plus là-dessus. Je ne sais pas si j'y réponds.
Est-ce que ce n'est pas possible justement parce que c'est un service extrascolaire et que du coup ne s'y applique pas la neutralité?
Ah, ça s'applique à la neutralité. Alors, bien sûr, quand même. À tout ce qui est dans l'espace scolaire et dans le temps scolaire, la neutralité s'applique. Mais absolument. Alors, et même quand on est dans le temps scolaire, en dehors de l'espace scolaire, une sortie scolaire au cinéma, on est dans le cadre, en théorie, strict de la neutralité. C'est-à-dire que, est-ce que les gens s'arrogent ce droit? C'est une chose. Mais d'un point de vue théorique, c'est l'espace de la neutralité, même la cantine. On peut pas porter son voile ni sa kippa à la cantine. On peut pas avoir une pratique religieuse. On peut pas faire de prosélytisme. Les profs n'ont pas le droit d'afficher leur religion. On reste dans un espace de neutralité au même titre que dans la cour de récréation ou dans la salle de classe. Ça, sur le statut par rapport au dispositif laïque.
Je vais essayer de répondre, mais je ne suis pas sûre de me souvenir de tout. Mais après, j'ai un peu le temps, donc on pourra discuter à l'extérieur, si vous voulez. Je vais répondre à ce dont je je pense avoir les réponses les plus pertinentes, qui est déjà l'étude du corpus scientifique. J'ai été vraiment confrontée à ça parce que du coup, dans ma recherche sur l'étude de la catégorie musulman, je me suis retrouvée à ce que mes sources deviennent mon corpus et mon corpus devienne mes sources. Donc c'était très compliqué. Puisqu'on voit bien que l'objet de recherche musulman correspond, enfin, est aussi ancré dans la représentation même du discours commun sur la catégorie musulman. Donc c'était compliqué de faire la différence. Donc ce qui a posé un gros problème d'ailleurs dans l'écriture de ma thèse, à savoir est-ce que ça se situe en introduction ou est-ce que c'est un chapitre de la thèse, est-ce que c'est ma source, est-ce que c'est mon corpus. Donc, ce que j'ai pu, bien sûr, après avoir lu toutes les personnes qui pouvaient parler de musulmans, ce qui est énorme, il me semble qu'il y a quand même trois choses qui sont remarquables dans l'étude de la catégorie musulman au niveau académique et scientifique. La première chose, c'est déjà que, et principalement en France, c'est un fait très saillant, la catégorie musulman a été très très étudiée par les politistes et la science politique. C'est vraiment les premiers qui se sont saisis de l'objet, parce que c'est très aussi en lien avec la figure du coup de l'immigré et de l'immigration. Et je pense à Gilles Kepel par exemple, qui est un des premiers livres en 1986 avec Rémi Levaux, qui traite de la figure du musulman. Mais alors du coup, il la traite toujours par rapport à un prisme qui est le prisme de l'intégration, le prisme des générations, des secondes générations, etc., et pas le prisme religieux. D'ailleurs, il se détache de cette définition, je dirais, confessionnelle et religieuse. Elle n'existe quasiment pas. D'ailleurs, on va parler même des musulmans laïcs aujourd'hui, quand on parle, on veut dire, des musulmans qui n'ont pas de rapport à la foi, finalement, qui n'ont pas de religiosité. Et alors, il y a un deuxième constat que je peux faire, c'est aussi l'investissement de cet objet de recherche par la sociologie interethnique et la sociologie de la migration, parce qu'aussi, il y a un recoupement de la population en elle-même qui va être catégorisée, se catégoriser en tant que musulman et qui correspond à une population qui est souvent migrante et qui est aussi souvent d'ascendance d'Afrique du Nord en France. Je parle. Et le troisième grand constat que je fais, c'est que l'objet musulman, eh ben, il est un peu délaissé de la sociologie des religions et de l'islamologie, principalement de l'islamologie en France, je pense, va se désintéresser grandement de cette catégorie, parce qu'elle est aussi investie par une représentation qui est la migration, les problèmes de l'intégration, les problèmes de l'assimilation, d'autres problèmes. Et aussi parce qu'elle se construit comme ça historiquement. C'est pour ça que du coup, je vais aller sur les critères de la religiosité. Il me semble... Alors, en ce qui concerne ma recherche, c'est le critère principal de ma recherche. C'est-à-dire que ma question est autant dans mon approche socio-sémantique historique, c'était toujours un peu de me dire... Est-ce qu'il y a une religiosité ou pas dans la définition de soi en tant que musulman, pour essayer de dresser des idées, pour essayer de dresser des archétypes, des idéotypes. Donc j'ai positionné ce critère de la religiosité. Et les gens que j'ai rencontrés au niveau contemporain, donc j'ai plusieurs entretiens, on va dire que je vais avoir une centaine en tout, entretien, questionnaire, observation, et c'est vraiment la question, qu'est-ce qui est pour vous être musulman? Est-ce que être musulman, c'est lié à la foi? Est-ce que vous avez la foi? Et la pratique, c'est quoi? Et c'est quoi être musulman pratiquant pour vous, musulmane? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui est athée est musulman? Et vous êtes athée, mais vous êtes musulman. Pourquoi vous êtes musulman? Donc c'était vraiment un peu aller chercher la religiosité comme critère d'un usage singulier du terme musulman. Et d'ailleurs, je me suis pas mal inspirée de la littérature sur l'identité juive, que vraiment être juif, est-ce que c'est lié à une foi, est-ce que c'est lié à une histoire, est-ce que c'est lié à un sentiment d'appartenance à un peuple, etc. Donc, et par rapport à l'identification en tant que musulman aujourd'hui. Et il y a quand même une différenciation du coup. Mais alors là, ce qui est intéressant, c'est que les différents imams que j'ai rencontrés ou les différents théologiens me donnent la définition à l'intérieur de l'islam qui est on ne peut pas sonder ce qui se passe dans le cœur d'un individu et qui est musulman, celui qui se dit musulman. Le reste, et en fait, je me suis rendu compte que la définition théologique, finalement, elle recoupait vraiment avec la définition sociologique, ce qui crée. Mais alors après, dans les faits, c'est autre chose. En tout cas, dans l'investissement du texte, c'est ça qui est mis en avant. Donc, le critère de religiosité, c'est vraiment l'élément central de ma recherche. Je me suis un peu perdue. Du coup, dans les questions, il y avait une question sur le glissement entre la figure de l'immigré et la figure du musulman. Moi, il y a un super article là, de Stéphane Alievich sur ça. Il me semble que c'est surtout c'est en cas de post-colonial, mais en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que ma première appréhension de socio-sémantique historique, c'est un corpus large. Et ce qui, du coup, crée une thèse un peu hybride et un peu bizarre, parce qu'en fait, mon objet, à moi, c'est le terrain contemporain, c'est tous ces questionnaires, toutes ces rencontres, toute cette observation, mais je ne pouvais pas comprendre les usages du terme musulman avec ce mot-là en plus, sans essayer d'historiciser tout ça et d'aller voir comment cette mémoire collective, elle se construit, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une personne va se dire musulmane parce que c'est exclusivement lié à la foi, il ne veut pas entendre parler de culture musulmane ou d'origine musulmane. Et je vais en rencontrer d'autres qui vont me dire, mais moi je suis complètement athée, mais je me sens complètement musulman. Donc, bref, je ne sais plus pourquoi je dis ça. Mais voilà. En ce qui concerne, du coup, pour rebondir sur les corpus, tout ce qui est la partie socio-sémantique historique, c'est que des corpus quasiment secondaires, des livres d'historiens. Bon, j'ai consulté le journal du musulman, j'ai toutes les publications pour voir l'usage du musulman, justement, pendant la période coloniale. Donc, il y a ce journal-là. Autrement, j'ai consulté au niveau plutôt contemporain comme je vous disais, discours plutôt politiques, mais c'est difficile parce que c'est passé, quoi. Donc on peut pas aller. Alors j'ai rencontré des personnes, par exemple, j'ai rencontré les personnes qui ont fondé le Manifeste des Libertés récemment, et c'est un ancien syndicaliste, journaliste, qui a couvert à Libé les grèves ouvrières. Donc il me raconte un peu, mais c'est toujours l'histoire proche, c'est les années 80. Hein. Et c'est pour ça que je m'attendais à être un peu interloquée sur mon anachronisme de partir d'aussi loin pour arriver aussi proche. Mais ça va, c'est passé.
Bon, on va conclure. Et je voudrais remercier tout d'abord Vincent Villemain pour l'organisation de ce beau colloque, les intervenants et les participants. Parce que ce débat, le colloque était très riche et fécond. Et donc, bonne